pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, ce soir, on vous parle de la lutte et contre la réforme des lycées professionnels. Ce qu'on regrette, c'est que dans notre académie de Reims, il n'y ait aucun lycée professionnel ou lycéen qui se soit mis en grève. Donc, il y a une manifestation jeudi 17, alors je ne sais pas quelle heure sur Reims, et donc si cette réforme du lycée professionnel passe, on reviendra à la situation d'avant 1959 où toute la formation professionnelle se passait au sein des entreprises.
Aujourd'hui, nous allons parler enseignement professionnel. En effet, le gouvernement actuel, comme ses prédécesseurs, a décidé de poursuivre la privatisation de la formation professionnelle en la déléguant directement au patron. Histoire de faire des économies, mais surtout de fabriquer dès le plus jeune âge des travailleurs dociles avec peu de connaissances techniques et intellectuelles. Des travailleurs attachés à un bassin d'emploi, sans savoir-faire, complètement assujettis à leur entreprise, avec très peu de possibilités d'évolution. Des travailleurs précarisés, dépendants d'entreprises qui ferment, se délocalisent au gré des profits. Des travailleurs robots, assujettis à la machine, qu'elle soit mécanique ou numérique. Le gouvernement essaie de faire passer une nouvelle réforme dans un silence terrifiant. Beaucoup de mobilisations concernant les augmentations dérisoires des salaires, mais bien peu de résistance concernant tout un tas de réformes qui contrôlent, répriment, détruisent nos vies, comme par exemple la réforme du chômage, de la police, et on en passe, et on n'en entend pas beaucoup parler. Avant les vacances, de nombreux lycées professionnels étaient en grève, aussi bien du côté enseignant que du côté lycéen. Une fois de plus, les lycéens qui faisaient des blocages devant leurs établissements ont été la cible de violences policières. Tout le gratin en bleu marine était sorti. Les policiers municipaux, armés de gazeuses, aux brigades anti-émeutes pour mater des enfants de 15 à 18 ans. Gaz lacrymogène, matraques, arrestations, garde à vue ont été la réponse du pouvoir au désir légitime de la jeunesse de prendre leur destin en main, d'exercer leur droit à l'expression. De Châtenay-Malabry à Gennevilliers en passant par Nanterre ou Paris, ils se sont révoltés contre le mépris, la volonté de l'État de s'immiscer jusque dans leur tenue vestimentaire, de réprimer leurs profs. Pas toujours aussi solidaire qu'eux, aussi bien dans la forme que prennent les mobilisations lycéennes, c'est-à-dire le blocage, que lors des répressions, qu'elles soient policières, judiciaires ou administratives. Mais bon.
Les gens épouvantés fuient le mal qui est en eux. quand vous en croisez un dans le désert. Il trouve encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Alors il se précipite en pleurant dans les bras du premier colonel Babavini, qui lui jure la guerre, qui lui promet torture et prison. Celui qui a fait à son rejeton l'affront d'un regard, l'affront d'un regard d'amour.
La fermeture, rien qu'à Paris, du site de Charenton du lycée professionnel Théophile Gautier, du lycée professionnel Brassailles, du lycée professionnel Charles de Gaulle, du lycée professionnel Valadon ou du lycée professionnel Carrel, du site brillant du LEP Lucas de Nehou ainsi que du lycée Georges Brassens sont programmés dès la rentrée septembre 2023. Mais des réunions de profs et d'élèves ont eu lieu pendant ces vacances. D'ores et déjà, une date de mobilisation pour le 17 novembre est prévue. Restons vigilants et protégeons les jeunes de la violence policière devant les écoles. Nous avons demandé à deux professeurs de deux établissements différents de nous informer sur le contenu de la réforme et les raisons de leur mobilisation.
Je veux plonger mon poing dans ta gueule ouverte et te l'enfoncer jusqu'au cœur.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, moi, c'est Amel, je suis prof de français, histoire, géo, dans un lycée pro à Épinay-sur-Seine, qui est plutôt axé tertiaire, donc tout ce qui est commerce, gestion, administration. C'est ma deuxième année de prof.
Il y a une nouvelle réforme. Depuis 2008, il y a une succession de réformes concernant les lycées professionnels. Celle-là vient de se rajouter encore et toujours dans la même logique. Hein, c'est-à-dire diminuer les heures de culture générale et puis augmenter les stages professionnels comme si c'était des stages où on apprenait quelque chose.
Bah déjà, il faut savoir que c'est une réforme, donc, comme tu dis, hein, qui s'ajoute à toutes celles qui sont déjà passées. Bah, je pense par exemple à l'annualisation du temps de travail, c'est quelque chose qui est un peu en germe dans cette réforme actuelle et qui avait déjà été proposé quand Mélenchon était en charge de l'enseignement professionnel. Donc c'est vraiment des choses qui sont dans les tuyaux depuis très longtemps sur l'éducation nationale. Donc la réforme actuelle, en fait, ce qu'elle apporte de nouveau, et il y a un peu deux axes, il y a la réforme du lycée pro, de l'enseignement au lycée pro avec l'augmentation des temps de stage, qui mécaniquement fait baisser le nombre d'heures d'enseignement tout court, général ou professionnel même. Le temps qu'ils passent en stage, ils ne le passent pas non plus avec leurs profs de pro au lycée. Au chacal et au requin. À côté de ça, il y a aussi des réformes, des décrets, des modifications de la loi qui sont passées pour les entreprises. Avec par exemple l'autorisation maintenant pour les entreprises d'ouvrir des CFA, des centres de formation et d'apprentissage, beaucoup plus facilement qu'avant. Et j'ai consulté il y a quelques mois la liste des titres et certifications professionnelles qui sont reconnus officiellement par l'État. Et en fait, le nombre de certifications a explosé. Maintenant, quasiment n'importe quel entrepreneur peut ouvrir son CFA, être déclaré et dire « moi, mes apprentis, je leur donne un titre professionnel, une certification pour tel métier ». C'est la même logique, c'est de favoriser au maximum l'apprentissage, donc avec vraiment mi-temps entreprise et lycée, parce que le lycée continuerait à assurer quand même les enseignements généraux, pour le coup, donc langue, français, maths, histoire, géo.
Mais en bien moindre proportion au niveau des heures.
Tout à fait, avec un nombre d'heures qui reste très 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 diminué. Et l'autre grosse différence, c'est qu'avec donc on accueillerait à moitié des apprentis et puis quelques élèves encore, mais de moins en moins. Et tous nos élèves feraient un stage vraiment beaucoup plus longtemps. Donc ce qui fait qu'au niveau des emplois du temps, ça casse toute idée de progression, vu qu'il faut s'adapter alors déjà au stage, puisqu'ils seront beaucoup plus longtemps en stage. Et pour les apprentis, ils ont un emploi du temps d'apprenti, de salarié, en fait, avec pas de vacances scolaires, notamment, avec des horaires à respecter. Donc, ça veut dire que chaque prof, on n'aura plus du tout une classe qu'on suit du début à la fin de l'année, mais on aura des élèves, des petits groupes d'élèves qui seront sans cesse modifiés et absents un jour, présents le lendemain, la semaine d'après. Donc, il n'y a aucune continuité possible dans un programme, par exemple en histoire, où il y a quand même une logique à suivre. Là, ce sera vraiment éclaté. Et c'est pour ça qu'en fait, le risque à terme, c'est vraiment l'annualisation du temps de travail, vu que tout sera très déséquilibré. Là, il y a certains lycées où l'apprentissage est déjà en place. Et en fait, on propose aux professeurs de rattraper les cours manqués par les apprentis, soit le samedi matin, soit pendant les vacances scolaires. C'est un peu ça qui est caché aussi derrière.
Le but de tout ça, parce que hormis le fait de faire des économies, j'imagine, pour le gouvernement, de déléguer au privé ce qui devrait être du public, mais c'est aussi fabriquer une main-d'œuvre complètement corvéable, sans savoir-faire, sans possibilité de se défendre, d'avoir un sens critique et une compréhension de ce qui se passe et les mots pour le dire. On est en train de fabriquer une génération d'esclaves modernes.
Complètement, et tout ça c'est caché derrière l'argument frappé au coin du bon sens. Là, je pense que le boucher de Tourcoing, il serait d'accord avec ça pour dire c'est le monde du travail, l'école elle doit servir à former des travailleurs, il faut qu'on forme nos jeunes dans des secteurs qui embauchent, et du coup faut être adapté aux besoins des entreprises. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça, déjà c'est pas ça le rôle de l'école. En tout cas, moi ce que je porte et ce que pas mal de collègues pensent aussi, c'est que l'école, on forme pas des travailleurs, en fait on forme des citoyens, on forme des adultes qui doivent réfléchir, qui doivent être autonomes dans la vie. Et puis le rôle d'un service public, c'est aussi d'avoir une vision à très long terme. Parce que les entreprises, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va répondre à des besoins, donc déjà très locaux, ça enferme les élèves dans leur territoire, et ponctuels et à court terme. Et par exemple, là, en ce moment, il y a des filières sur le développement durable et le recyclage qui se mettent en place. Mais il y a plusieurs technologies comme ça qui pop, qui font fureur pendant quelques années, puis ensuite on n'en a plus besoin du tout. Et ça, typiquement, c'est des élèves, enfin des jeunes qui vont être formés à un métier, à un poste, et qui peut-être dans quelques années, ça n'existera plus. Et en fait, ils auront que leur certification qui vaudra plus rien. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que vu que ça va être très localisé et chaque établissement sera très autonome, en fait, il n'y aura plus un diplôme national, il n'y aura plus de bac ni de CAP.
Il y a une perte de connaissances et de savoir-faire, en fait, qui s'opère déjà, mais qui va continuer. En fait, c'est adapter l'individu à la machine, qu'elle soit numérique ou mécanique.
C'est ça. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir que l'apprentissage, là, tout le monde On n'entend que ça dans les médias, que l'apprentissage est formidable, c'est formidable. Mais en fait, l'apprentissage, c'est une sélection qui est très dure. Il y a beaucoup d'élèves qui trouvent pas, parce que tous les biais racistes, sexistes, enfin toute la sélection qu'on peut connaître partout, bah là, elle s'applique. Ouais. Et les jeunes qui trouvent pas de contrat en apprentissage, bah c'est les mêmes qui plus tard auront du mal à trouver un appart ou un métier. Et surtout, ensuite, il suffit que l'élève arrive en retard. Enfin, c'est quand même, c'est très strict, quoi. C'est le code de l'entreprise qui s'applique. Donc il y a pas de tolérance.
Ouais, y a un embrigadement, et il y a beaucoup d'élèves qui restent sur le carreau. Ouais, il y a un embrigadement qui s'opère dès le plus jeune âge pour rendre aussi les futurs salariés, les élèves dociles.
Clairement, nous, les élèves qu'on a, ce serait donc les débuts de stage en seconde, et c'est ça, enfin l'apprentissage à terme, c'est un peu vers ça qu'on nous pousse. Ils sont trop trop jeunes en seconde, c'est pas possible. Donc ils ont aucun recul, aucun sens critique, et ils savent pas se défendre. Surtout déjà là en stage, on a quelques situations préoccupantes avec, clairement c'est de l'exploitation. Hein. On retrouve nos élèves, ils nous disent ouais, mais j'avais trop mal au dos, ils portent des trucs lourds, ils sont dans des postes de travail pas adaptés, bref. Et déjà là, ils ont aucun réflexe de défense. Juste, ils se taisent ou ils s'en vont et au final, c'est eux qui sont en faute. C'est clairement une génération qui va être très, très fragile sur le monde du travail après.
Cette réforme, comment ça se passe? Elle est en train d'être discutée? Elle est déjà appliquée?
Alors, pour l'instant, on a juste les annonces de Macron là, qu'il a fait à la rentrée.
D'accord.
On a eu un décret au mois de juin qui est passé, qui a été voté, qui autorise les profs de lycée pro à enseigner aussi en lycée général ou en collège, ce qui avant n'était pas possible. Et donc, on a cette annonce très officielle qui a été faite aussi que le temps de stage va être multiplié par 1,5, donc pas doublé, mais augmenté de 150% dès la terminale l'année prochaine. Et sinon, la concertation, elle commence, j'ai plus les dates exactes, mais les syndicats vont être reçus là dans les semaines qui viennent. Et d'ailleurs, tous les syndicats de l'enseignement professionnel se sont mis d'accord, à part un, qui refusent, mais sinon ils se sont mis d'accord pour lire une déclaration d'opposition à cette réforme et à ne pas participer à la concertation. Mais normalement, d'après ce qui est annoncé, c'est que d'ici Noël, la concertation est finie et on a le plan de mise en œuvre pour la prochaine rentrée.
Pour la rentrée prochaine.
Que nous avions pris le temps d'alerter les bébés et de construire avec les bébés.
Il y a un manque d'informations incroyable concernant la critique et les mobilisations contre cette réforme. Comment t'expliques ça? Parce que même, je pense que les parents des lycéens pro sont même pas au courant de cette réforme.
Il y a déjà un problème beaucoup plus vaste de l'état de l'éducation, parce que là, à la rentrée, effectivement, surtout dans le 93, il y a eu plusieurs grèves de lycée pour des classes surchargées, des locaux vétustes, des conditions de travail complètement déplorables. Et rien que ça, ça fuite très peu, en fait. On en parle très peu et aussi parce que les parents ont du mal à se saisir de cette problématique. Ça reste assez opaque.
Et c'est difficile parce qu'il y a vraiment une rupture, une séparation, un fossé souvent entre les profs, les élèves et les profs et les parents.
Oui, donc à chaque mobilisation, ça fait partie des discussions, ça revient toujours sur la table, on se demande, mais oui, mais il faudrait qu'il y en ait les parents avec nous, mais comment on prévient les parents, mais comment on fait? Sachant que nous, en lycée, on voit très très peu les parents, en fait. On les voit une fois en réunion parents-prof en début d'année, mais après, ils viennent pas chercher leurs enfants à la sortie du lycée. Dans certains établissements, et notamment dans le 93, c'est souvent les mêmes parents qui assurent toujours les rôles de délégués, tout ça, au CA, et du coup... On a très peu de parents vraiment impliqués dans la vie de l'établissement. On n'a pas le droit, évidemment, d'influencer les élèves ou de leur distribuer des documents à l'intérieur du lycée.
Alors ça, c'est vraiment incroyable, parce que quand tu dis influencer, en fait, c'est, on pourrait dire informer. Parce que c'est pas influencer. Ils sont suffisamment grands pour, si tu leur files l'info, ils en font ce qu'ils en veulent. Donc là, maintenant, il n'y a plus de possibilité à l'intérieur des lycées de faire cette information complètement factuelle sur la réforme.
Tout à fait, sachant qu'en ce moment, dans l'éducation, il y a un gros travail qui est fait sur la laïcité, notamment dans l'Académie de Créteil, avec des formations obligatoires sur 3 ans. Et en fait, la laïcité, quand très vite, en tout cas dans mon lycée, c'est le cas, la proviseure rappelle à chaque fois que la laïcité, c'est sur la religion, mais pas seulement, c'est aussi sur l'idéologie, sur la politique. Et en fait, toutes les lois, les règlements, les contraintes liées faites au nom de la laïcité, ça se retrouve assez rapidement dans le champ, bah, justement, politique et de la mobilisation sociale.
De la dépolitisation, prof, en fait.
Voilà, et un prof n'a pas à exprimer un avis ni religieux, ni politique. Et clairement, c'est traqué aussi, ça.
C'est vraiment une manière de dépolitiser complètement les contenus. D'ailleurs, je ne sais même pas comment vous pouvez faire classe. je ne vois pas.
On s'abrite derrière les compétences de débat, de vivre ensemble, d'exprimer des opinions. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. D'ailleurs, ça me fait penser que plus largement, l'action syndicale en ce moment est rendue de plus en plus difficile. En dehors de l'éduc, il y a eu plusieurs cas de répression syndicale, mais dans l'éduc aussi. Et en fait, c'est vraiment de plus en plus, on accuse les syndicalistes de nuire au bon fonctionnement des établissements, de mettre une mauvaise ambiance. Et en fait, on a déjà plusieurs exemples de collègues qui ont été déplacés d'office ou qui ont été sanctionnés d'une façon ou d'une autre.
On a suivi un peu toute la répression qu'il y a dans le monde syndical, que ce soit dans l'éducation nationale ou ailleurs, d'ailleurs, parce que en ce moment, fait pas bon contester le pouvoir, qu'on soit jeune devant un lycée technique ou prof dans un lycée. On était en train de parler de cette invisibilisation et entre autres, le 18, là, octobre, théoriquement, ça devait être une journée de mobilisation et de manifestation contre la réforme des lycées professionnels, qui s'est transformé en mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle pour le droit de grève et pour la hausse des salaires.
C'est vrai que le premier réflexe de beaucoup de collègues, quand on a appris que la journée du 18, il y avait aussi un appel interpro pour les salaires en soutien aux raffineurs, il y a plusieurs collègues qui ont dit « Ah mais non, mais on ne va encore pas parler de nous, c'est pas possible ». De façon générale, le lycée pro, ça concerne un tiers des élèves, mais en fait, on l'oublie vraiment tout le temps. Dès l'origine, en fait, moi, quand j'ai passé les concours pour être prof, au début, je pensais être prof d'histoire géo en lycée général, et parce que j'étais même pas au courant que ça existait, les profs de lycée pro, et que c'était un diplôme à part, enfin, un concours à part. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on parle jamais, qu'on oublie tout le temps, et parce que, c'est les élèves qu'on envoie au lycée pro, c'est ceux qui n'ont pas le niveau pour aller au lycée général. Les profs de lycée pro, il y a aussi une espèce de réputation comme ça, qu'on n'a pas le niveau pour être en général, donc
c'est un peu la plus belle de l'éducation nationale.
Voilà. Et pour revenir au 18, là, en fait, c'était, ça aurait été aussi une opportunité excellente si on avait réussi à faire le lien, en fait, et de montrer que le lycée pro, la bataille du lycée pro, ça concerne donc les lycées pro, ça concerne aussi plus largement l'éducation, parce que ce qui se passe au lycée pro, souvent, on sert de cobaye, et après, c'est élargi et c'est mis en place dans le lycée général et au collège. Et puis, surtout, ça a des influences, en fait, dans tout le monde du travail, parce que tous les apprentis, là, nos apprentis, nos stagiaires, c'est autant de salaires en moins pour les entreprises, en fait. Et autant de salariés. Et d'ailleurs, une des premières années du plan là, Un jeune, une solution qui avait été mise en place en Ile-de-France, le groupe Carrefour, les chiffres correspondent vraiment à une centaine près. Il y a plusieurs milliers de salariés qui ont été licenciés et le même nombre d'apprentis qui ont été embauchés.
Là, on a l'impression que, je vais dire, les centrales syndicales s'ingénuent à diviser les secteurs, alors qu'on est vraiment dans une même logique, une même problématique et que ça concerne tout le monde. Parce que ça empêche la mobilisation de se faire, quoi, et les liens de se construire entre générations, mais aussi entre secteurs.
Et oui, et d'autant plus cette année où c'est d'autant plus compliqué que là, au mois de décembre, il y a les élections professionnelles. Donc, tous les syndicats de l'éducation, en tout cas dans la fonction publique. Donc, tous les syndicats de l'éducation, là, les trois principaux qui sont donc la CGT Éduc, surtout la FSU et Sud. Le premier réflexe, souvent, c'est « Ah, mais il y a une AG, mais c'est drivé par qui ? Si c'est Sud, on n'y va pas. » Ou « Ah, mais c'est encore un truc de la CGT. Ouais. » Et ensuite, autre échéance, au printemps prochain, il y a le congrès confédéral de la CGT. Mm. Et là, clairement, c'est pareil entre les fédérations. Je sais que dans 93, ça a été un des arguments, pas le seul. Hein. Mais c'est venu quand même dans la discussion que les autres fédérations, quand même, elles n'avaient pas le même rapport. Ils n'allaient pas porter la même chose au congrès. Donc non. Et effectivement, là, c'est une période où ça divise complètement, alors que
ça divise. Il y a une fenêtre, là, faudrait être ensemble. Ouais, puis du coup, le gouvernement, il en profite pour faire passer toutes ces saloperies, quoi, en se disant qu'il y aura pas beaucoup de mobilisation et de contestation. Juste parler un petit peu des lycéens, parce que là, on entend énormément de lycéens qui bloquent leur lycée et qui sont sujets d'une répression absolument incroyable. On a revu les gaz lacrymogènes, les flashballs, les tabassages, les arrestations, les gardes à vue et éventuellement peut-être même des passages devant les tribunaux pour des jeunes finalement qui ne font que contester une réforme, c'est-à-dire faire de la politique, être adulte, s'intéresser à leur avenir. Et là, on les prive de finalement de leur existence et de leur avenir.
Complètement, ça c'est quelque chose, moi dans mon lycée c'est pas le cas parce qu'il n'y a aucun mouvement lycéen, mais effectivement dans la région parisienne, ça fait plusieurs semaines là qu'on a plusieurs échos où chaque blocage de lycéen, systématiquement il y a la police qui intervient, systématiquement ça dérape. Ça n'existait pas il y a quelques années, ça. Et maintenant,
ça commence à exister depuis pas mal de temps, là. Moi, je dirais que depuis 2005, c'est vraiment quelque chose, parce qu'on a vu quand même des jeunes gens, adolescents perdre leurs yeux, ça fait plusieurs dizaines d'années,
Là, disons qu'à chaque blocage sur les réseaux de messages, la question c'est est-ce qu'il y a des jeunes en garde à vue, quoi. On s'y attend.
Et du coup, il faudrait s'organiser pour soutenir, les aider, leur fournir des avocats, faire en sorte que leur avenir ne soit pas entaché par le fait d'avoir pris position contre une réforme.
Et c'est là que, pour le coup, les syndicats ont un rôle à jouer.
Note qu'ils ne le font pas, puisque encore heureux que sur la région parisienne, il y a une coordination anti-répression qui se charge de fournir des avocats militants aux manifestants interpellés, donc aux lycéens interpellés, si là il y en a en ce moment. Et c'est pas les syndicats qui le font. Ils ont un peu du mal avec la répression, la justice et la police. Ouais. Ils sont pas toujours très clairs.
C'est vrai qu'ils ont du mal, notamment avec les lycéens, vu que les lycéens, ils sont pas. Il y a des syndicats lycéens qui existent, mais c'est pas considéré vraiment comme une organisation sérieuse. Donc pour les syndicats, professionnels, ils ont du mal à se pencher et aller vers eux.
Tout ça est encore à construire. L'interview se passe à la veille des vacances. Donc pendant les vacances, qu'est-ce qui va se passer et à la rentrée, quelles sont les perspectives?
Alors, les perspectives, pendant les vacances, c'est plutôt le mouvement interpro qui va continuer. Donc, j'ai plus les dates en tête, mais je sais qu'il y a des appels intersyndicales. À la rentrée, il y a une prochaine date pour les lycées pro, donc qui est le 17 novembre, qui a été, notamment, il y a eu une AG Éducation Île-de-France mardi soir, et on a exprimé la volonté, la nécessité d'avoir une date pour les lycées pro la semaine du 15 novembre. Okay. Et le lendemain, l'intersyndicale des lycées pro s'est réunie. Et donc là, ils appellent à une journée de mobilisation le 17 novembre. D'accord. Et donc la semaine de la rentrée, là, jusqu'au 11 novembre, ça va être une semaine assez intense avec des tournées dans les bahuts, avec des heures d'infos syndicales, donc des réunions qu'on dépose pour expliquer aux collègues ce que c'est la réforme, en essayant au maximum d'élargir et d'aller aussi voir les collègues de lycée général et de collège. Qu'ils se sentent aussi concernés.
Merci beaucoup.
Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il sort. À jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'est des volontaires. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Bagnole de
fringué de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir.
Continue le décryptage de la réforme du lycée professionnel.
Bonjour, est-ce que pour commencer tu peux te présenter et dire dans quel établissement tu travailles ?
Bonjour, je suis donc JB, je suis enseignant au lycée pro en lettres histoire au lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil.
D'accord. C'est génial, c'est quoi ?
C'est la sonnerie du lycée, je travaille.
Tu es sur ton lieu de travail ?
Ouais, je suis sur mon lieu de
travail. D'accord. On peut peut-être commencer par effectivement faire un bref historique sur les différentes réformes qui ont secoué le lycée professionnel.
En 2008, on a eu donc la réforme annoncée de la fin du bac pro 4 ans. Donc où c'était 2 années de BEP et 2 années de bac pro, ce qui permettait qu'en fait qu'il y ait une série de jeunes d'élèves qui en fait avaient parfois des difficultés scolaires, des problèmes avec ce que représente l'institution scolaire. C'est quelque chose, c'était une période où en fait c'était possible de reconstruire en fait déjà un lien avec l'institution scolaire pendant les 2 années de BEP et après d'avoir une formation de 2 ans pour obtenir un bac professionnel. Et surtout, c'était une période de formation de 4 ans qui permettait quand même d'approfondir toute une série de connaissances avec les élèves, que ça soit en matière générale mais aussi en matière professionnelle bien entendu, hein, avec plus de temps de formation du coup dans les ateliers, et où surtout c'était du coup des jeunes qui étaient plus capables en fait de réfléchir par eux-mêmes et de s'adapter en fait à différents postes dans le monde du travail. Et là, c'est quelque chose qui est en train de changer puisque en fait alors il a fallu attendre un certain nombre d'années hein, pour qu'il y ait une nouvelle réforme, puisqu'il y a une nouvelle réforme je crois que c'est 2018 où en fait il y a un changement profond sur en fait la diminution d'heures de formation des élèves, où là clairement l'axe c'était en fait d'en finir avec le côté les élèves vont acquérir des connaissances et mettre l'axe très important sur des compétences. Avec un temps de formation qui s'est largement réduit, hein, parce que de souvenir, moi j'avais 6h30 en terminale en français, histoire, géo, EMC, et où maintenant les élèves ont entre, en fonction de la répartition des moyens dans les lycées, 3h ou 3h30. Et là-dessus, l'apparition de nouveaux cours, que sont la co-intervention et le chef-d'œuvre, ou des cours où, en fait, où les élèves n'acquièrent rien du tout. C'est juste du marketing en fait pour aujourd'hui l'éducation nationale dire en fait regardez, on fait un chef-d'œuvre. Le bilan, c'est que partout en fait ce sont des heures où tous les enseignants galèrent, les élèves galèrent à savoir exactement ce qu'ils font, mais surtout ça réduit en fait le niveau de connaissances demandé au bac, et en fait ça réduit du coup l'autonomie des élèves une fois ce bac fini sur le marché du travail, et ça réduit les chances de s'en sortir dans l'enseignement supérieur. Que nos élèves en BTS, c'est compliqué maintenant avec cette réforme.
Les coups de patte dans les pare-brises des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états, et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes gosses et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation, et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère, ça
t'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures.
Et on était en 2018. 18. Maintenant, on est alors une nouvelle réforme là, que le gouvernement veut faire passer et qui bloque une fois de plus, hein, puisqu'il y a en ce moment des grèves, que ce soit du côté des profs et des blocages du côté des lycéens. Qu'est-ce que cette nouvelle réforme amène en pire dans les lycées, dans la formation professionnelle?
Ce que ça amène en pire, déjà, c'est la première chose, c'est une réduction du temps de formation. Ouais. Pour les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir qu'en parallèle, on a eu la mise en place des secondes des métiers. C'est-à-dire qu'en fait, quand avant un élève rentrait en seconde chaudronnerie, maintenant il va rentrer en seconde Rémi, donc métier industriel. C'est-à-dire que pendant un an, il va tester les différents ateliers, les différentes formations présentes dans son lycée, que ce soit en industriel ou en électronique, pour ma part, hein, pour mon lycée.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont un temps de formation sur leur spécialité qui est moindre, qui est réduite. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir eu un bac pro 3 ans, ben maintenant on s'est dirigé vers un bac pro 2 ans et demi, 2 ans. Ça, c'est actuel. Et avec la réforme, en fait, c'est une diminution du temps de formation au lycée, en terminale, puisque ce qui est proposé, c'est que en fait, les élèves passent 50% de leur temps de terminale en entreprise. Voilà, donc une réduction quand même un peu drastique de la formation, et surtout faire croire que les entreprises permettent en fait de former les élèves à différentes choses comme on peut le faire dans des ateliers. Donc c'est en fait une diminution du niveau de connaissance, et c'est surtout un très gros risque pour les élèves, puisque en fait on sait déjà qu'aujourd'hui en fait des élèves pour trouver 8 semaines de stage, c'est très compliqué dans plein d'entreprises. Bah là, trouver 50% du temps de formation aujourd'hui, ça paraît pas quelque chose de possible à l'étape actuelle, et donc ça veut dire des élèves qui se verront refuser sur leur bac, sur
leur validation stage, de leur diplôme, quoi.
De leur diplôme, tout à fait. Ça, c'est une des choses qui est proposée. L'autre chose qui est proposée, c'est la destruction du cadre national de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, chaque lycée aura une autonomie sur le choix de ses formations et de ses cours en lien avec le bassin d'emploi local. C'est-à-dire qu'en fait, il sera possible que des filières ferment. Ça a déjà des conséquences, hein, quand même, dans leur réflexion, puisqu'en fait, déjà, on a des annonces sur des lycées pro-parisiens où, en fait, on sait que c'est précurseur de ce qui va se passer avec la réforme. Et c'est surtout qu'en fait, un établissement pourra choisir un cours de PSE d'art appliqué ou qui a trop d'heures de français ou d'histoire-géo, et donc réduire ce nombre d'heures. Donc ça veut dire en fait des suppressions de postes pour l'enseignant que je suis. Mmh. Pour les élèves, ça veut dire des connaissances en moins et encore moins d'autonomie sur le marché du travail, encore moins de possibilités d'aller dans l'enseignement supérieur. Et surtout, ça veut dire aussi que en fait les élèves n'auront plus un bac professionnel national, mais un bac pro totalement local qui répondra à des besoins de son bassin d'emploi local. Et ça veut dire que pour les jeunes, ça sera plus compliqué aussi de faire un choix. Souvent, en bac pro, il y a une discussion sur la difficulté de l'orientation. C'est-à-dire qu'on a des élèves, ils choisissent pas souvent leur orientation. Avec des suppressions de filières, ça veut dire qu'il y aura moins de choix. C'est-à-dire que les élèves seront plus obligés de s'adapter aux filières qui sont présentes dans sa zone. Moins de choix pour eux. Des diplômes moins qualifiants qui donnent moins de chances d'être autonomes sur le marché du travail. Là, clairement, beaucoup moins de chances d'aller dans l'enseignement supérieur.
Ouais.
Voilà, donc on en est ça. Et c'est-à-dire qu'on ne formera plus à la connaissance, mais on formera à des compétences précises. Et l'objectif de fond, c'est d'avoir une masse de main-d'œuvre, en fait, formée à des tâches très précises au bassin d'emploi local. Et ce n'est pas grave si ces futurs travailleurs, en fait, ils sont capables de faire qu'une seule chose, parce que de toute façon, ils seront embauchés pour faire qu'une seule tâche et puis qu'ils seront jetés dès qu'en fait, il faudra se séparer de salariés.
Et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf. Et déjà, petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des portes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir.
On voit qu'il y a quand même une logique, hein, depuis 2008, cette même logique qui est de diminuer les heures de connaissances générales, d'une manière drastique, puisqu'on est passé de, comme tu disais, de 8 heures à 3 heures. En français, histoire géo, c'est 3 heures, ce qui est proposé au lieu de 8, ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire des jeunes gens avec un sens critique moins aiguisé, et peut-être même moins de mots pour le dire, moins de connaissances pour pouvoir affirmer leur point de vue. Donc on en est là.
Si ils font ça. Parce qu'en fait, oui, leur objectif, de toute façon, c'est de précariser toujours plus les futurs salariés et les travailleurs à l'heure actuelle. Et ça, c'est un moyen qu'ils ont, surtout qu'en plus de quand même ce que j'expliquais auparavant, il y a une facilité à l'ouverture de CFA pour les entreprises.
C'est quoi CFA en fait,
CFA, c'est le centre de formation par apprentissage. Donc en fait, c'est privé, c'est géré par des entreprises. Elle-même, en lien avec des entreprises, ça répond à des attentes précises d'entreprises. Bah, et on sait qu'en fait, ça, c'est la fin du lycée professionnel sous le giron public petit à petit.
Donc, il y a une volonté petit à petit de privatiser finalement la formation et que ce soit les entreprises elles-mêmes qui forment leurs futurs employés.
Salariés. Tout à fait. C'est ça, de toute façon, qui réfléchissent depuis des années parce qu'en fait... Pour l'État, la région, en fait, un lycée professionnel, ça représente un coût plus important qu'un lycéen de matière générale. Et avec, en fait, l'automatisation de toute une série de tâches, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de main-d'œuvre qualifiée.
Et intelligente, en plus.
Et intelligente, hein, oui, ça c'est sûr. En baissant le niveau de connaissance, on va diminuer la capacité de résistance des jeunes de se rendre compte, parce que si la précarité fera qu'il y aura une pression bien plus importante à accepter des conditions de travail qui seront désastreuses.
Ce que tu disais par rapport au fait d'adapter les jeunes au bassin d'emploi de la région où ils étudient, fait que c'est plus du tout en fonction du choix de la personne, mais du besoin des entreprises.
Mais de toute façon, c'est quelque chose qui existe globalement dans l'éducation. Les précurseurs de ça, ça a été l'enseignement supérieur, puisqu'en fait, aujourd'hui, pour délivrer des diplômes, en fait, ce qui est demandé dans les chartes des diplômes, c'est que ça assure une insertion professionnelle dans le bassin d'emploi local. Mmh. Et c'est un critère très important dans l'établissement de diplôme. Et là, ils s'attaquent en fait au lycée, parce qu'ils se rendent compte que le choix qu'ils font depuis des années de précariser le plus possible, ça fait que de toute façon, il n'y a plus besoin en fait d'avoir une main d'œuvre qui est capable de se déplacer, qui soit qualifiée. Donc en fait, on va bloquer des jeunes dans une filière, une tâche, une compétence. Ça permettra pour que les élèves qui subiront cette réforme soient bloqués là-dedans.
Mais c'est quand même assez incroyable parce que quand on voit les boîtes qui ferment à tire-larigot, ça veut dire que la boîte ferme. Et ben le salarié, il est complètement paumé là, parce qu'il ne peut plus aller ailleurs.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il aura beaucoup plus de difficultés pour aller ailleurs. C'est-à-dire quand avant, par exemple, on formait des chaudronniers, à l'époque, ça s'appelait techniciens d'usinage. Bon, en fait, ils avaient toute une série de connaissances qui leur permettaient de s'adapter à toute une série de secteurs. Mmh. Déjà avec la diminution du temps de formation qui est à l'heure actuelle, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des élèves qui ont moins de connaissances sur les ateliers. Donc, pour s'insérer sur le marché du travail, c'est déjà plus dur puisqu'il y a des choses qu'ils ne savent pas faire parce qu'on a moins de temps de formation. Mmh. Mais en diminuant et en les laissant se faire former, parce que c'est ça, c'est-à-dire l'année de terminale à 50% dans une entreprise, c'est-à-dire qu'ils se forment aux besoins de leur entreprise où ils font le stage. En fait, ils sauront faire quasiment que ça. Ils ont eu, en fait, un an et demi avant, quasi uniquement deux formations dans des ateliers. Et là, clairement, ça veut dire qu'ils sauront faire que ça et ils iront dans ce sens-là parce que s'ils veulent trouver du travail, ils seront obligés, en fait, de jeter là-dedans parce qu'ils n'ont pas le choix.
Le but, c'est de déposséder l'être humain à la fois de son sens critique, mais aussi de son savoir-faire, c'est-à-dire du pouvoir qu'il peut avoir sur sa vie et sur ses choix.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent un peu le sens qu'on discute avec les collègues, de dire en fait, quand on diminue le nombre d'heures de cours de matière générale et de cours de matière professionnelle, c'est pas juste une question. Souvent, il y a la discussion sur c'est une question d'économie. Oui, c'est une question d'économie, mais c'est aussi une question de choix politique pour la suite. Et ça permet qu'une masse ouvrière précarisée à l'extrême et qui sera obligée d'accepter les tâches les plus ingrates même s'ils le veulent pas, parce qu'en fait, ils pourront faire que ça, parce que leur formation ne leur permettra pas de bosser ailleurs.
Avec des salaires de merde, en plus.
Avec des salaires de merde. Voilà. Oui, et puis des conditions de travail de merde. C'est-à-dire qu'en fait, là, on passera peut-être sur du 50%, peut-être ça sera des jeunes qui, comme ils auront une seule compétence ou une seule tâche qu'ils sauront faire, bah, ils seront à temps partiel, imposés. Voilà, ils auront moins de droits sur la possibilité de dire, bah, moi, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Alors qu'aujourd'hui, moi, je sais que je suis dans une zone où, en fait, c'est encore industrialisé. L'une de nos élèves de chaudronnerie, il y a 2 ans, ils avaient encore un diplôme qui leur permettait de, parfois de faire le choix, de dire, bah non, en fait, moi, je vais pas travailler dans ce type d'entreprise, je vais travailler soit dans une grosse boîte, soit moi, je préfère une petite entreprise, je vais travailler dans une petite entreprise. On avait des élèves, parce qu'ils avaient des connaissances, ils pouvaient travailler sur, nous, il y a un élève qui est déjà rentré dans une entreprise, bah, de réparation de voitures de luxe pour refaire, voilà, la structure des voitures. Quand il y aura moins de formation, tout ça n'existera quasiment plus. C'est-à-dire qu'en fait, on aura des élèves qui seront peut-être à peine faire une soudure, qui seront à peine plier une tôle, qui n'auront pas utilisé différentes matières, qui n'auront pas utilisé des machines poussées, parce que aussi dans l'éducation nationale, des fois, en fait, faute de moyens, on n'a pas les machines dernier cri. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on les a pas, et donc ils savent pas, ils sauront pas s'adapter à cette situation.
Et pourtant, tout ça, c'est des métiers absolument nécessaires, hein, que ce soit plombier, électricien. Donc c'est vraiment déqualifié, désintellectualisé. Pour laisser place à la machine, au tout remplaçable, au non réparable.
Tout remplaçable, et puis même dire en fait qu'un salarié qui a une seule compétence, ben on va le laisser sur un seul poste, et que comme il sait
aucune
faire que
évolution
ce seul poste,
de carrière,
voilà. Aucune évolution, il ne discutera pas avec ses collègues, il sera peut-être isolé dans la chaîne de production, et surtout ben il pourrait être employable, ça se trouve, que par cette entreprise, parce que c'est la seule entreprise qui fait cette chose-là, et donc en fait ils pourront lui marcher dessus, marcher sur ses droits comme ils veulent. Parce qu'en fait, le jeune en question n'aura aucune autre possibilité pour s'en sortir, à part de dire reprendre une nouvelle formation, mais là où encore ça sera bloqué, qui sera pas prioritaire pour avoir une nouvelle formation, pour faire un BTS. De toute façon, voilà, c'est très probable que ce soit très difficile pour eux de rentrer en BTS avec cette réforme, encore plus que maintenant déjà. Ouais.
Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que les profs ont conscience de la gravité de cette nouvelle réforme et font grève? Comment réagissent les élèves?
Déjà, les collègues, ils ont conscience que c'est une attaque très importante. Alors, pour deux raisons, je pense qu'il y en a qui comprennent en fait ce que ça veut dire sur la société future, ce que c'est qu'avoir une classe ouvrière sous-formée, sous-qualifiée et qu'on peut précariser à merci. Et il y a aussi des collègues qui comprennent très bien qu'en fait, c'est le risque, c'est des suppressions de postes, des suppressions de filières, etc. Ce qui manque, clairement, aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu en tête un plan de bataille clair. Voilà, il y a eu beaucoup de grévistes dans mon établissement le 18, mais ce qui manque un peu, c'est de comprendre que aujourd'hui, pour rejeter cette réforme, on sera obligé de poser la question de la grève reconductible, donc d'être en grève reconduite pour aller s'adresser à d'autres collègues, pour aller faire des actions. Ça, c'est la première chose. Et les élèves, en fait, ils en entendent parler. Alors, même si je suis argentin, donc on est plus loin de la capitale, donc voilà, les nouvelles réformes, etc., ça va moins aux élèves. Mais ils sentent aujourd'hui, quand on discute un peu avec eux, que en fait, le côté l'abrutissement qu'ils subissent, en fait, le fait qu'il y ait moins de connaissances, etc., c'est un impact sur leur vie, c'est un impact. Et ils se rendent compte petit à petit que tout ça, en fait, c'est voulu. Je reprends les termes des élèves. Des fois, ils me disent, parce que bon, des fois, c'est compliqué en cours. Et ils me disent, des fois, monsieur, c'est vrai, on est complètement con, quand même. Et bon, on les regarde, en fait, mais en même temps, vous voyez, vous, votre frère, il a eu tant d'heures de formation. Ouais, vous en avez combien? Et il dit, vachement moins. Et on fait, oui, c'est voulu. Voilà, vous voyez bien. Et ça les marque. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'en fait, l'éducation nationale qui apporte des connaissances, ça n'existe plus. Ouais, et donc l'école a moins de sens. Et l'école a moins de sens pour ces jeunes-là. Et ce qui est normal, parce qu'en fait, normalement, l'école, ça devrait être quelque chose qui permet d'acquérir des connaissances, pour comprendre le monde qui nous entoure, pour pouvoir essayer de faire valoir des droits sur le marché du travail. C'est toujours compliqué à expliquer à des élèves, pour des questions déjà de... On ne peut pas leur expliquer en tant que tel, normalement, et que des fois, ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre ces éléments-là.
Excuse-moi, tu disais, on ne peut pas leur expliquer en tant que tel, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de leur expliquer en cours.
On n'a pas
le droit de leur dire en cours, c'est le fameux truc de devoir de réserve du fonctionnaire où on n'a pas le droit de se positionner par rapport aux événements. Après, il y a des moyens, il y a des tracts, il y a des possibilités que les enseignants aient sur d'autres lycées que le leur, parce que ça, c'est autorisé. C'est des choses qui existent. C'est des solutions qui existent, qui sont utilisées à certains endroits.
Ça nécessite une organisation, c'est-à-dire que les profs fassent des roulements sur d'autres établissements que le leur pour pouvoir faire des AG, distribuer des tracts devant l'entrée.
Donner des tracts. Après, là, il existe aujourd'hui des lycées professionnels où il y a une mobilisation. Ça change un peu la donne quand même. Puisque là, avec à la fois les fermetures de lycées, là, je crois que c'est le lycée du 15e arrondissement qui a été bloqué.
Il y a aussi la volonté de la part du gouvernement de fermer des lycées professionnels.
Oui.
C'est
ça. Oui. Mmh. Alors, souvent, ils disent, c'est la solution parce que les locaux sont abîmés. Ça, c'est un truc qui est faux. C'est-à-dire que des locaux, ça se refait. On sait que dans leur plan, de toute façon, ils annoncent des suppressions de postes. De toute façon, ils annoncent qu'ils veulent en finir avec les enseignants fonctionnaires, etc. Avec la réforme, ils ont les moyens d'entraîner la fermeture d'établissements. Vous voyez, il y a des zones où, en fait, alors c'est pas mon cas dans ma zone parce qu'on a peu d'accueil commerce, de filières de services, mais il y a des zones pour le patronat, ça ne sert pas. Pour les entreprises, avoir des filières de services, ça ne sert pas. C'est probable que ces filières ferment et puis petit à petit, ce lycée ferme. Parce que ça n'a aucun intérêt direct pour le patronat local. Si on est dans une zone où il n'y a que de l'industrie, à quoi bon former en accueil commerce-vente pour le patronat? Oui, à l'inverse, quand on est dans des zones où il y a beaucoup d'accueil commerce-vente et qu'on n'a pas de filière zone industrielle avec de la métallurgie ou de l'industrie lourde, à quoi bon former dans l'industrie? Puisqu'en fait, il n'y a pas d'entreprise qui corresponde à ces besoins.
Si on regarde entre le fait qu'il n'y ait pas de construction de nouvelles universités, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui sortent avec le bac et donc qui sont censés suivre des cours à l'université. Si on voit le fait que dans la région parisienne, par exemple, il y a de plus en plus d'habitants et de moins en moins de places, de lycées, de collèges, etc. Et là, maintenant, on apprend qu'il y a des lycées techniques qui vont fermer. Mais que vont devenir un certain nombre de jeunes sans aucune formation, sans aucun établissement pour eux?
Vous savez, ils seront dans ce qu'on appelle les limbes du rectorat. Pour l'instant, il ne peut pas déscolariser des élèves parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils les font durer. Là encore, à l'heure actuelle, je crois dans le 95, on a encore une centaine de lycéens qui ne sont pas scolarisés ou qui n'ont pas trouvé de place dans des formations professionnelles. Mais ils les enverront dans des établissements que les élèves n'ont pas choisis, dans des options qu'ils n'ont pas choisies, parfois très loin de chez eux, où on sait que ça, c'est facteur de décrochage scolaire. Mais ça, clairement, ils en ont rien à faire. Nous, chaque année, on a une discussion sur le nombre d'élèves qu'il y a dans les classes. Il y a trop d'élèves. Alors, c'est plus dans la partie générale technologique de mon lycée. Mais quand on leur dit, mais vous vous rendez compte, 31, 32 élèves dans l'établissement, 34 parfois, etc. Là, ils font, mais c'est pas grave, il y en a, ils viennent pas de toute façon.
Que les meilleurs restent, les plus accrocheurs et les autres dégagent.
Même si... Nous, cette année, et pour aussi un peu donner confiance aux collègues, c'est-à-dire que nous, on est dans un établissement qui a connu, on va dire, des mobilisations l'année dernière, un joyeux bordel dans l'établissement avec des mobilisations des collègues, qui a fait qu'à la rentrée, en fait, nous, on a eu 8 secondes à 25 élèves.
Au détriment, en général, c'est on habille Pierre, on déshabille Paul, au détriment peut-être d'autres lycées, quoi.
Tout à fait. Ils ont fait le choix. Après, c'est des choix politiques qu'ils font, stratégiques, en vrai. C'est-à-dire que nous, ils ont dit... comme ça, ils vont se taire parce qu'ils seront à 25 élèves en seconde générale technologique. Par contre, on va surcharger les STMG à l'autre bout, à Braque, à Argenteuil et à l'autre bout du département. Mais comme ça, il n'y aura pas de liaison qui se fera. C'est leur moyen pour éviter qu'on s'unifie.
Thank you. espérance.
Jeunesse de France, prends à vos têtes ta chance.
Jeunesse de France,
même si perdu d'avance.
Jeunesse de France,
tu prendras ta revanche.
Jeunesse de France,
de partout et d'ailleurs.
Jeunesse de France,
la pire et la meilleure.
Jeunesse de France,
irresponsable.
Jeunesse de France,
incontrôlable.
Jeunesse de France,
toute la beauté du diable.
Jeunesse de France,
la plus belle désirable.
Jeunesse de France.
Sur la banquette orange, le reste du monde te paraît bien étrange.
Jeunesse de France, jeunesse de France, jeunesse de France.
Je voulais quand même aborder la question des lycéens, puisqu'on a vu là que un certain nombre de lycéens ont bloqué leur établissement. Ouais. Et à chaque fois, c'est quand même une violence assez spectaculaire et incroyable de la part à la fois des CRS, des polices municipales, de la justice, avec des gardes à vue, du gaz lacrymogène, etc. Quoi, des flashballs.
Oui.
C'est hallucinant.
Mais de toute façon, c'est quelque chose d'hallucinant, c'est un truc qui s'est développé ces dernières années. On a l'impression que en fait l'État s'assoit sur le droit de grève directement de l'ensemble de la jeunesse et dit en fait vous devez plus juste fermer vos gueules et on envoie la police. Et ce qui est simple, hein, c'est qu'en fait la police ne devrait pas être du tout devant un lycée. Les élèves ils bloquent, mais il doit y avoir aucune présence policière. S'il y a aucune présence policière, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème s'il n'y a pas de présence policière. Il faut laisser les lycéens le droit de s'organiser. Quand on est lycéen, on peut aller en garde à vue, on est responsable devant la justice, etc. Par contre, on n'aurait pas le droit de grève. Par contre, on n'aurait pas le droit de dire « Bah ouais, l'avenir que vous nous promettez, c'est de la merde. Ouais, les réformes, vous nous pourrissez la vie, c'est vos réformes, et en fait, on n'a pas le droit de les contester. Si on les conteste, en fait, vous envoyez la police, on fait de la garde à vue, on est gazé, on est matraqué. En fait, aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils ont raison, quoi. Ils ont raison, en fait.
Mais carrément, ils ont raison de se révolter, c'est leur avenir. Ouais.
Et ils représentent une force capable d'entraîner des lycéens, c'est des centaines de jeunes, c'est des milliers de jeunes.
C'est 600 000 lycéens en tout hein, dans les lycées professionnels, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, et puis c'est dire en fait, c'est concentré dans la même zone. C'est-à-dire que voilà, quand on voit à Paris des lycéens qui se mobilisent, à Paris même, ça peut être des cortèges de dizaines de milliers de jeunes.
Ouais.
Ça donne confiance à l'ensemble des salariés, des enseignants.
Ouais.
De voir des dizaines de milliers de jeunes sortir dans la rue. Et ça, le gouvernement, il
sauf
se
qu'il
dit,
faut,
c'est plus dur.
Il faut, faut les aider, hein, parce que devant les lycées, ils s'en prennent plein la gueule. Quoi. Et s'il n'y a pas les profs, et là, on n'a pas abordé la question des familles, qui sont, mais qui, à mon avis, savent même pas qu'en ce moment, il y a une réforme du lycée pro, que leur môme est en danger et qu'ils ont raison de se révolter.
Le rôle des enseignants, quand il y a un blocage, c'est d'être avec les lycéens pour faire face à la police. En fait, dès qu'il y a un déploiement de police, en fait, les enseignants de l'établissement, en fait, ils doivent être devant la police pour protéger les lycéens. Et en fait, on peut penser ce qu'on veut parfois de nos élèves qui peuvent être compliqués en cours. Mais en fait, entre la police et nos lycéens, en fait, il faut toujours choisir nos lycéens. Voilà. Et ça, c'est pas moi, je pense que les collègues, c'est pas un choix, quoi. C'est-à-dire que c'est nos élèves. C'est pas de la chair à matraque qu'on peut se laisser faire éclater par la police en face de son lycée.
C'est une manière aussi de renouer entre les générations et de créer, de fabriquer ensemble concrètement sur le terrain et dans la lutte un projet collectif commun et les associer à cette réflexion.
C'est de toute façon, on a plus d'intérêt matériel avec nos lycéens qu'avec
avec une direction,
des SDEL, avec la police, avec le gouvernement. Même si mes élèves, ça se passe mal de temps en temps en cours, avec eux, moi je leur dis, j'ai plus d'intérêt avec vous qu'avec tout plein de gens dans la société.
T'es renoué à faire confiance à nouveau aux adultes, hein, qui sont souvent l'autorité qui oblige, impose, méprise, humilie.
Tout à fait.
Je te rends...
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail.
Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Je te remercie beaucoup et puis,
bah,
et